France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia, Radio Rosana P. Paris.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour aux États-Unis et aussi en Europe ce soir.
We are going to lead this nation even higher. And we are going to forge the freest.
Nous allons conduire cette nation encore plus haut, dit-il hier Donald Trump dans son discours sur l'état de l'Union. Nous allons forger la civilisation la plus libre, la plus avancée, la plus dynamique et la plus dominante qui n'ait existé sur cette planète. Bonsoir Gérard Haro.
Bonsoir.
Vous êtes ancien ambassadeur aux États-Unis. Ce matin, vous avez retweeté un sondage de CNN juste après le discours de Donald Trump sur l'état de l'Union. Donc 66% des Américains considèrent que le pays va dans la bonne direction. Un sondage alors dont on ne sait pas s'il a été fait, si ce sont les républicains ou les démocrates qui ont majoritairement regardé la télévision, mais enfin, de fait, ça donne quand même ce chiffre-là. Et au fond, je me demandais en lisant ça, si c'est pas ça qui nous échappe à nous, Européens. Parce qu'il n'y a pas que Trump, parce qu'il y a aussi une volonté de bouleversement, une volonté d'America First, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit toujours pas, et qui s'exprime là au discours sur l'état de l'Union.
Oui, j'ai toujours, vous savez, j'ai passé 12 années de ma vie aux États-Unis d'affilée, puisque avant Washington, j'étais en poste à New York, aux Nations Unies, et j'ai toujours considéré que finalement, les Français connaissaient assez peu mal les États-Unis, de manière paradoxale, et lorsque les jeunes diplomates arrivaient à mon ambassade, je leur disais, ne partez pas des similarités, partez des similitudes, partez de ce qui nous différencie. Et nous connaissons trop New York, Washington et la Californie, et nous oublions, voyez, ce que les Américains appellent « the flyover America », c'est-à-dire cette Amérique entre les deux côtes qu'on est supposé, avec une certaine condescendance, seulement
on
survoler.
On passe au-dessus, mais on ne s'arrête jamais. Ouais.
On ne s'arrête jamais, et donc cette Amérique-là, elle a voté massivement pour Donald Trump, elle est très républicaine, c'est la source, finalement, de cette révolte des Américaines qui a porté par deux fois Donald Trump au succès. La première fois, on a pu penser que c'était un accident, le hasard. Là, on ne peut plus le penser. Il y a quelque chose de profond qui se passe dans la société américaine.
Il a parlé, et c'est ce que vous avez souligné d'ailleurs, de forger la civilisation la plus dominante qui n'ait jamais existé. C'est ce qu'on a entendu aussi. Il reparle de s'emparer du Groenland. Il a refait une sortie sur le Panama aujourd'hui même. Une Amérique conquérante qui prend ce qui l'intéresse, qui jette ce qui ne fait pas ses affaires, donc l'Ukraine. Il y a de l'appétence pour ça aux États-Unis, à votre avis?
Vous savez, on ne se rend pas compte quelle est l'histoire des États-Unis jusqu'à 1941, jusqu'à l'entrée en guerre dans la Seconde Guerre mondiale. Et je rappelle que si les États-Unis sont rentrés dans la guerre, ce n'est pas du tout pour venir à notre secours, c'est parce que les Japonais les ont attaqués et parce que l'Allemagne avait déclaré la guerre. Hein, ils avaient refusé de venir à notre secours en 1939. Vous avez des États-Unis qui sont des États-Unis isolationnistes, qui sont à l'abri...
Par essence, vous voulez dire?
Comment?
Par essence, vous voulez
par essence. Oui, c'est des pays... Et quand vous êtes Américain, sur votre continent, vous êtes à l'abri de toute menace. Hein, c'est pas le Canada qui va vous menacer, ni le Mexique, que vous avez plutôt tendance à envahir de temps en temps. Vous n'avez aucune raison de vous mêler des affaires du monde, sauf si vraiment on vient vous chercher noise. Et la différence, c'est qu'en 45, il y avait l'Union soviétique, la France et la Grande-Bretagne ne pouvaient plus faire le job en Europe, et donc les États-Unis sont sortis de cet isolement. Mais moi, j'ai toujours été convaincu que tôt ou tard, ils y reviendraient, qu'ils nous diraient, et je peux le comprendre, le petit gars du Wisconsin, pourquoi défendrait-il l'Estonie?
Jamais d'alliance contrainte avec les Européens, c'est même ce que disait George Washington.
Voilà, exactement. Mais... Ça part du dernier discours de George Washington en 1797, ne vous venez pas des affaires européennes. Et en plus, pour les Américains aujourd'hui, dernier point, la menace, elle est en Asie, et la croissance, elle est en Asie. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'Américains qui ne voient pas pourquoi ils défendraient l'Europe.
Après, c'est intéressant dans les termes quand même. Il a passé évidemment une très grosse partie et l'essentiel, et c'est intéressant pour nous aussi parce qu'on est très focalisé sur l'Ukraine. Il n'en a finalement que très peu parlé, si ce n'est l'allusion à la lettre de Volodymyr Zelensky. Il parle de l'intérieur, il parle de ce qui se passe dans son pays, il parle de la révolution de bon sens contre la tyrannie, fermez les guillemets. L'utilisation de ce mot-là, c'est jamais anodin aux États-Unis de parler tyrannie.
Oui, c'est... Alors d'abord, je crois que ce discours, il faut souligner une chose, c'était un discours de campagne électorale.
Mmh, c'est vrai.
Il n'annonce rien, aucune mesure nouvelle, il répète au fond tout ce qu'il a dit pendant la campagne électorale. Or, pendant le premier mandat que j'ai vécu à Washington, il a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il est resté en campagne électorale pendant 4 ans. C'est-à-dire pendant 4 ans, il faisait des grands meetings, il traversait le pays pour maintenir mobilisée sa base. Car il y a, et ça c'est difficile évidemment à comprendre pour nous, il y a un rapport très particulier, intense, affectif, entre Donald Trump et son électorat.
Et alors justement, pour la première fois hier, il leur dit, attention, les droits de douane, ça peut tanguer. En gros, c'est plus ou moins ce qu'il leur a dit. Qu'est-ce qui est, à votre avis, le plus... qu'est-ce qu'ils supportent le plus mal? Est-ce que c'est l'opinion qui doute ou est-ce que c'est Wall Street qui doute le plus effrayant pour Donald Trump et qui peut éventuellement lui faire appuyer sur le frein?
Alors d'abord, le protectionnisme, c'est vraiment une conviction qu'il a depuis 30 ans. Hein. Quand j'étais ambassadeur, j'avais demandé à un jeune diplomate d'examiner tout ce qu'il avait dit pendant 30 ans. C'était protectionnisme, protectionnisme. Il y croit profondément. En même temps, c'est un pragmatique. Hein. Il n'a pas de doctrine, il ne va pas mourir pour les droits de douane. Mmh. Et pour lui, comme c'est un homme d'affaires, il ne regarde que la bourse. Et donc, d'accord, plutôt que les sondages, ça va être ça. Est-ce que si la bourse baisse, si on parle d'une récession, que les États-Unis, qui étaient en pleine croissance, entreraient en récession, que l'inflation reviendrait, ça peut certainement, me semble-t-il, influencer sa politique et le conduire peut-être à changer de cap.
On a vu les élus démocrates, pendant ce discours, manifester, protester, il y avait des panneaux avec marqué « c'est faux », il y en a même un qui a été expulsé. Est-ce qu'on a assisté au premier acte de résistance, j'y mets des guillemets, il faut faire attention avec les mots, mais des élus démocrates ou pas?
Bon, je dirais que les démocrates ont fait un spectacle assez étonnant. Hein. On a vraiment l'impression qu'ils sont dans les cordes. Moi, je suis évidemment en contact avec des amis que je connais aux États-Unis. Ils sont totalement sonnés. Ils ont perdu. Et vous savez, ils ont un problème, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à admettre, et je peux le comprendre, qu'ils puissent perdre face à un tel adversaire. Mmh. Qui est menteur, qui a été condamné pour viol. Ils n'arrivent pas à admettre qu'il n'a pas de dignité personnelle et ils n'arrivent pas à trouver finalement la réponse. Il y a en face d'eux, il y a derrière Trump, il y a le Trumpisme qui survivra à Trump. Il y a une nouvelle droite américaine qui était libre-échangiste, qui est protectionniste, qui était interventionniste, qui est isolationniste, qui était pour l'austérité budgétaire et qui dépense à tout va. C'est une nouvelle droite et elle va rester. Eh bien, la question est... quelle sera la nouvelle gauche américaine? Les démocrates ne l'ont pas encore trouvée.
On voit bien jusqu'à présent que le Congrès, Trump s'en fiche un peu, puisqu'il a effectivement uniquement gouverné par executive order. Mais enfin, d'ici au 14 mars, c'est-à-dire demain, il y a le risque de shutdown s'il n'y a pas une solution budgétaire qui est trouvée. Est-ce que c'est ça le premier trou dans lequel doivent s'engouffrer les démocrates, à votre avis?
Alors, vous savez, ce sera peut-être ce qui va arriver, mais le calcul pour les démocrates est difficile parce que traditionnellement, vous savez, le mélodrame de la fermeture du pays parce que le budget n'est pas voté, c'est un mélodrame qui nous arrive à peu près tous les 2 ou 3 ans. Hein. Mmh. C'est un grand classique.
On trouve toujours un accord avant d'habitude, mais là, la situation est quand même très différente.
Il y a toujours un accord, et quand il n'y a pas un accord, c'est le parti jugé responsable qui perd. Mmh. C'est-à-dire l'opinion publique, évidemment, n'aime pas le spectacle de son administration qui ferme, ça fait quand même mauvais genre et en général on accuse le parti qui a bloqué un accord. Donc je ne suis pas sûr que les démocrates s'aventurent sur ce terrain-là, d'autant plus que les premières victimes en seraient des fonctionnaires qui en général votent démocrate ou des programmes sociaux qui en général profitent plutôt aux électeurs démocrates.
Quelle est votre lecture, Gérard Araud? Est-ce que, on l'a dit tout à l'heure, le passage sur Zelensky a été finalement très court à l'occasion de ce discours, mais ce qu'on a appris, on a appris 2 choses aujourd'hui. D'abord, que les renseignements entre l'Ukraine et les États-Unis étaient coupés autant que l'apport des armes, donc c'est extrêmement important. On a aussi appris quand même qu'il y aurait de nouvelles discussions entre l'Ukraine et les États-Unis et que probablement elles interviendraient bientôt. Est-ce que ça dit qu'on se reparle et peut-être que les décisions qui ont été prises là, notamment de stopper toutes les aides, on peut revenir en arrière, ou est-ce que pour vous, ça, c'est scellé ?
Non, c'est d'abord, ça montre la brutalité de l'administration Trump, hein, face à un président Zelensky qui est pris à la gorge, dont on voit bien qu'il essaye désespérément de sauver son pays. Eh bien, les États-Unis donnent un coup de plus, lui donnent un coup de plus sur la tête pour l'obliger à accepter leur médiation et obliger d'accepter les termes qu'ils ont imposés à leur médiation. Et aujourd'hui, force est de reconnaître qu'ils ont imposé, qu'ils ont donné beaucoup aux Russes, hein, qu'ils ont imposé beaucoup aux Ukrainiens, et qu'ils n'ont aujourd'hui rien demandé aux Russes.
Et ça veut dire que même s'ils se reparlent aujourd'hui, ça n'engage absolument rien en termes d'accord de sécurité pour l'avenir, ni même de faire repartir les livraisons d'armes ou les renseignements entre les deux pays.
Je crois qu'on peut exclure un accord de sécurité. Je crois qu'on peut exclure une quelconque garantie de sécurité, une sécurité américaine. On voit bien que les Américains, disons-le, et je peux le comprendre, le petit gars de Wisconsin, il n'en a rien à faire de l'Ukraine, soyons francs. Et ça, Trump, qui sent son électorat, le sent bien, et il veut mettre un terme à cette guerre, car il y a une conviction profonde en Trump, qui est respectable, hein, il veut mettre un terme aux conflits dans lesquels les États-Unis sont engagés. Et l'un d'entre eux est donc l'Ukraine. Il veut mettre un terme à la guerre en Ukraine, et pour lui, les intérêts de l'Ukraine lui sont profondément indifférents, et il est prêt à tordre le bras du malheureux Zelensky, et il est en train de le faire. En ce qui concerne les échanges d'informations, nous verrons si c'est simplement une manière de tordre encore plus le bras de l'Ukraine, ou est-ce que c'est définitif, ce qui serait évidemment extrêmement grave. Mais c'est quand même, en termes humains, c'est quand même jouer avec un pays agressé qui essaye de se défendre, et on lui coupe sans le moindre remords, sans avertissement, des informations qui sont vitales pour lui.
Mais on a compris que ça lui coûte rien en termes d'opinion et en termes électoral. À Donald Trump, ce soir, Gérard Araud, Emmanuel Macron, on va parler. Demain, il y a un sommet extrêmement important à Bruxelles. Il y a une révolution copernicienne qui est en cours en Allemagne, notamment. Il y a 800 milliards aussi sur la table de l'Europe. On a l'impression que l'Europe s'est réveillée. Macron a eu cette phrase. Emmanuel Macron, il est minuit moins le quart pour l'Europe. Et Merz, le futur chancelier allemand, a même dit il est minuit moins 5. Pour vous, il est quelle heure ?
Moi, d'abord, j'aimerais bien que l'Europe décide quelle heure il est, hein, parce que nous avons des sommets tous les 36 du mois. Nous les en avons un par mois, où chaque fois on réaffirme...
D'ailleurs, Zelensky sera, on l'a appris aussi il y a quelques minutes au moment où vous vous asseyez.
Notre fermeté, et finalement, il n'en sort pas grand-chose. Donc, demain, je trouve que c'est là où l'Europe va nous dire quelle est l'heure, parce que c'est là que des décisions doivent être réellement prises, parce que, vous savez, les Européens, ça fait 3 ans qu'on est en guerre, l'Ukraine a été envahie, l'industrie de défense européenne n'est même pas encore mobilisée. Et soyons francs, nous savons bien que nos opinions publiques sont extrêmement réticentes, certainement pour envoyer des soldats, mais même pour faire des efforts et des sacrifices en faveur de l'Ukraine. Vous savez, j'ai écrit un livre sur la diplomatie française dans l'entre-deux-guerres, et je me rappelle qu'à Munich, Daladier, il savait bien qu'il faisait une bêtise de signer, mais il savait aussi bien que l'opinion française ne voulait pas faire la guerre. Et je ne fais pas de parallèle avec cette période, mais nos dirigeants politiques, nous sommes des démocraties, ils sont obligés de tenir compte de l'opinion publique nationale.
Ça veut dire que vous ne faites pas le pari que le réveil de l'Europe, c'est aussi un OTAN au réveil qui serait durablement reconfiguré ?
Alors, le problème de la défense européenne, c'est évidemment d'abord il faut que les Européens en sentent la nécessité. Jusque là, vous avez tous les Européens de l'Est, hein, les Polonais, les Baltes, les pays baltes, qui savent que leur sécurité dépend de la protection américaine. Hein, vous n'allez pas dire un Polonais fait confiance aux Franco-Britanniques. Hein, en 39, ils savent ce que ça a valu, et donc il y a certainement dans ces pays un mouvement de panique. Ils vont sans doute essayer de voir du côté américain ce que ça veut dire. Ils vont sans doute acheter des F-35 encore plus, augmenter leur budget. Et ce sera à partir de la politique américaine qu'ils décideront. Mais vous savez, il y a aussi une conviction que Trump... Il n'y a pas une déclaration de Trump qui n'ait pas été démentie, oubliée le lendemain. Ouais. Donc, que veut dire Trump pour l'OTAN ? Il n'en a pas parlé au cours de son discours.
J'ai une toute dernière question, il nous reste peu de temps. Gérard Araud, vous l'avez dit, vous avez passé 12 ans aux États-Unis, vous avez été 12 ans ambassadeur, vous l'avez été aussi à Washington. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que les États-Unis sont devenus une démocratie libérale ?
Je pense que c'est l'objectif certainement de l'administration Trump sur le thème de nous avons gagné les élections et donc on ne doit pas s'opposer à ce que nous faisons.
Donc,
c'est-à-dire
oui.
On se débarrasse des check and balance. Ils ont d'ailleurs, ils contrôlent tout, y compris la Cour suprême de manière massive. Et donc oui, la démocratie libérale américaine est assiégée aujourd'hui.
Gérard Aron, merci beaucoup. Merci de votre passage chez nous. La suite ce soir, ça se passe en Hongrie, qui a installé sur son territoire une méga-usine de fabrication de batteries pour voitures. C'est une usine qui est chinoise d'ailleurs. Pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche sous les radars.
Au Chili, les déboires de Shakira sur sa grande tournée.
Le Monde à 18h50 et Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. On verra que l'Allemagne, vous l'évoquiez, renonce à ses principes de rigueur budgétaire pour faire face à la nouvelle donne géopolitique.
Et le cinéma en VO, c'est vous Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir. Après le succès de Parasite, Bong Joon-ho répond dans son nouveau film à une question existentielle. Ça fait quoi de mourir ?
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète ce n'est pas fini, il passe par les États-Unis comme on les aime. Nous sommes à Nashville, Tennessee, avec Bonnie Price Billy, London May, c'est dans la playlist d'Inter.
Leave it to solitude all alone. Only the lonely can be so strong. Never has anyone made such a fuss. Death looks in the window as only death must. Or you will find that with thoughtful action you will rise. Never to suffer. Never to die. Maybe we'll always be this way. After our horrific night comes bright day. You may want to stay. Lose yourself in another wild night. On and on and on and on. Need to decide who will win this fight. Devil will say your time's come and gone. Or you will find that things have come to coincide. Now is the time to die. Maybe we'll always be this way. After a horrific night comes bright day. Yellow and gray. Overcomes nothing,
nothing
despite one's needs. Maybe we'll
le reportage d'un jour dans le monde est en Hongrie ce soir et qu'il n'a pas échappé que dans 10 ans, toutes les voitures neuves dans l'Union européenne devront être électriques. Il faut donc des batteries. La Hongrie vient d'implanter chez elle une usine XXL, la plus grande d'Europe, qui équipera 1 million de voitures par an. L'usine est chinoise et elle inquiète pour les risques de pollution qu'elle engendre. Quand on parle environnement, le Premier ministre Viktor Orban regarde plutôt ailleurs. Le plus russophile, le plus sinophile des Européens a offert un pont d'or aux Asiatiques pour venir en Hongrie. Les Hongrois, ceux qui vivent à côté des usines de batteries, eux s'inquiètent. Et le reste, c'est Florence Labruyère qui raconte.
Emmitouflée dans son écharpe, Gabriela est venue manifester malgré le vent glacial. Nous sommes à la périphérie de Debrecen, une ville de 200 000 habitants à l'est de la Hongrie. Sur cette ancienne plaine agricole, on voit des usines flambant neuves à perte de vue. Elles fabriquent des batteries pour voitures électriques, une production qui consomme beaucoup d'eau. Alors Gabriela s'inquiète pour ses petits-enfants. Il faut que les générations futures puissent boire l'eau du robinet. Comment ça va être possible quand notre ville est encerclée par 8 ou 9 usines de batteries? Sur cette plaine, on voit une usine géante, c'est celle du chinois Cattle, premier producteur de batteries au monde. Cattle est déjà en Allemagne et en Espagne, mais son usine hongroise sera la plus grande d'Europe. Elle pourra équiper 1 million de voitures par an. Le gouvernement Orban a donné 800 millions d'euros à l'industriel chinois pour l'attirer en Hongrie. Le ministre hongrois des Affaires étrangères s'en félicite.
Les entreprises chinoises nous apportent les technologies les plus modernes. Ceux qui critiquaient notre politique d'ouverture à l'Est nous envient beaucoup aujourd'hui. Et il y a de quoi.
Le gouvernement détruit l'environnement, il trahit notre patrie, lance Eva Kozma à la tribune. Cette ingénieure, maman de 3 enfants, est inquiète. L'usine consommera tellement d'eau que la population risque d'en manquer. Et deuxième problème, les produits chimiques qui entrent dans la production de batteries.
Ma maison est à 1,5 km de l'usine de batterie Cattle. Cette usine va déverser tellement de produits toxiques dans l'environnement que ça va mettre notre santé en danger. Je ne veux pas que ça arrive à mes enfants.
Face à l'inquiétude des habitants, Noémie Schidlo, chargée de communication pour Cattle, se veut rassurante.
Partout où nous avons des usines, nous respectons les réglementations européennes et locales. En Hongrie, nous avons tous les permis nécessaires, l'autorisation environnementale, le certificat Seveso. Ces permis autorisent l'émission de certaines substances, mais avec des taux à ne pas dépasser. Et nous installons un système de contrôle très strict. Donc, rien de grave ne peut arriver.
Le problème est que le permis environnemental délivré par le gouvernement ne respecte pas la loi hongroise. Normalement, une usine doit mettre en place la technologie la plus innovante et la moins polluante. Or, l'entreprise chinoise utiliserait une méthode traditionnelle avec un solvant toxique. Et en cas d'accident, l'usine n'est assurée qu'à hauteur de 3000 euros, une somme dérisoire. L'État hongrois n'aurait jamais dû délivrer ce permis, jugent les riverains qui ont porté plainte contre le gouvernement Orban. András Litrecsics est l'un de leurs avocats.
Si le solvant contamine les nappes phréatiques, cela peut entraîner des malformations génétiques et des cancers. Or, il existe des technologies qui éliminent totalement la pollution liée à ce produit chimique. Et l'État a reconnu ce fait, mais c'est plus cher.
Le procès concerne seulement l'usine Cattle, mais il y a d'autres usines en construction et selon l'avocat, cela multiplie les risques de pollution.
Il y aura bientôt 7 usines. Ça peut devenir un mini Tchernobyl.
Les habitants demandent au tribunal d'annuler le permis délivré par le gouvernement hongrois, mais le procès dure depuis 2 ans et l'usine a déjà commencé à produire des batteries.
Florence Labruyère pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. C'est d'abord en Australie que nous sommes, Kevin, où la future interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, pas pour les mineurs, continue à faire débat.
Oui, la loi a été votée. Les entreprises concernées ont jusqu'à la fin de l'année pour mettre en place des systèmes qui empêchent les mineurs de moins de 16 ans de posséder un compte sur TikTok, Snapchat, Instagram et compagnie, mais pas YouTube. La plateforme vidéo de Google est exemptée. Le gouvernement se justifie en expliquant que les ados peuvent se servir de YouTube pour apprendre et faire leurs devoirs à l'aide de vidéos de vulgarisation ou de documentaires. Alors évidemment, tollé chez les concurrents qui, eux, vont devoir se passer d'une partie de leurs utilisateurs. Illogique et anticoncurrentiel, dit la directrice des politiques publiques de TikTok en Australie dans un courrier adressé aux autorités. YouTube présente les mêmes caractéristiques et les mêmes contenus que les autres, renchérit de son côté Meta. Parmi les raisons invoquées par le gouvernement australien pour interdire les réseaux aux moins de 16 ans, il y a l'addiction générée par les algorithme. Elle peut exister sur YouTube, surtout avec sa fonctionnalité Shorts, qui fonctionne en fait comme TikTok, ou encore l'exposition à la désinformation, loin d'être absente des vidéos que l'on trouve sur YouTube.
Nous sommes en Indonésie où la capitale est en partie sous l'eau.
Oui, il pleut fortement depuis deux jours sur Jakarta, provoquant des inondations impressionnantes. Plus de 3 mètres d'eau par endroit, des inondations meurtrières aussi. Il y a déjà une victime, une petite fille de 3 ans. Des milliers d'habitants ont dû quitter leur maison et plusieurs quartiers de la métropole de 30 millions d'habitants sont paralysés. Sauf que des pluies sont annoncées pendant encore une semaine. Alors les autorités emploient les grands moyens en lançant une campagne d'ensemencement des nuages. Ça consiste à injecter du sel ou des produits chimiques dans les nuages pour déclencher la pluie avant qu'il n'arrive au-dessus de la ville. Nous ne pouvons pas empêcher la pluie, mais nous pouvons réduire l'intensité, affirme le directeur de l'agence météo indonésienne. En 2020, des inondations avaient fait près de 70 morts à Jakarta et dans sa région.
Et puis nous sommes en Amérique du Sud avec une tournée bien compliquée.
Oui, celle de Shakira, la superstar colombienne, a lancé une série de grands concerts le 11 février, mais depuis, déjà 4 annulations. Alors la première, c'était pour raison de santé, mais les 3 suivantes, c'était à cause de soucis techniques. Dimanche et lundi, elle devait se produire au Stade National de Santiago, au Chili. Et bien finalement, impossible d'installer la scène parce que le sol du stade est, je cite, incliné et n'est donc pas stabilisé. Et le 23 février, à Medellin, en Colombie, chez elle, un toit de l'installation de la scène s'est effondré lors de la mise en place. À se demander si Shakira n'a pas eu la folie des grandeurs. La scène pèse plus de 60 tonnes avec un écran de 40 mètres de long, un éclairage entièrement robotisé, une passerelle mobile et j'en passe. Les stades ne sont donc visiblement pas adaptés à une telle démesure alors qu'ils ont accueilli sans souci des artistes comme Taylor Swift. Pour consoler ses fans chiliens, Shakira a donné un mini-concert acoustique improvisé devant le stade lundi soir.
Pas pareil.
Mais non, mais bon, c'est moins encombrant, ouais. Ça coûte moins cher. Peut-être que c'est ça, finalement, l'avenir de la musique.
Bah écoutez, voilà une autre. Merci beaucoup, Kevin, qui s'y connaît en acoustique, qui fait ce qu'elle veut avec sa voix. Vous partez avec Natacha Atlas, belge et égyptienne à la fois, avec une reprise de Nina Simone, qui elle-même en avait fait une reprise de Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You. C'est sur France Inter.
Things you do.
la version Natasha Atlas de I Put a Spell on You sur France Inter. Et dans Un jour dans le monde, Le Monde à 18h50, c'est Franck Madvin.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Franck, comment doit réagir l'Europe face à des États-Unis qui prennent leur distance? Un Conseil européen extraordinaire se penche donc demain sur la question. L'Allemagne a apporté hier une première réponse et ce soir, vous nous dites pourquoi Berlin semble une fois de plus changer d'époque.
Tous les germanophones, et j'en fais pas partie, j'avoue, connaissent le terme Zeitenwende, le tournant, le changement d'époque. L'actuel chancelier Olaf Scholz l'avait annoncé il y a 3 ans lors d'un discours marquant quelques jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine, forte augmentation des dépenses militaires dans une Allemagne frugale et pacifiste. Nouveau Zeitenwende donc, et cette fois le virage est peut-être encore plus spectaculaire. Les conservateurs de Friedrich Merz, appelés à devenir le prochain chancelier après les élections de février, et les sociaux-démocrates avec lesquels il négocie pour une coalition, se sont mis d'accord sur une profonde remise en question des règles budgétaires allemandes pour financer la nouvelle politique de défense.
Alors, qu'est-ce qu'il dit cet accord ?
3 points à retenir. D'abord, pour toutes les dépenses militaires au-delà de 1% du PIB, on ne tiendra plus compte de ce qu'on appelle le frein à l'endettement, cette règle constitutionnelle qui limite à 0,35% du PIB le déficit de l'État fédéral. Pour rappel, la France est à 6%. Les dépenses de défense pourraient ainsi doubler et atteindre 100 milliards d'euros par an. Deuxième proposition, la création d'un fonds de 500 milliards d'euros sur 10 ans pour rénover les infrastructures et relancer l'économie. C'est indirectement lié à la sécurité, mais c'est aussi une révolution budgétaire. Et trois, même les régions, les Länder, pourront s'endetter.
Et alors cet accord pourra être adopté ?
Normalement oui, Fabienne. Grâce à une astuce politique, il faut une majorité des 2/3 des députés pour valider une telle réforme de la Constitution. Et c'est possible dans le Parlement actuel. Les voix des conservateurs, des sociaux-démocrates et des Verts suffisent pour valider ce plan. Ce ne sera plus aussi simple dans le nouveau Bundestag, en place à partir du 25 mars. Les élus de l'extrême droite et de la gauche radicale disposeront alors d'une minorité de blocage. Le vote devrait donc avoir lieu dès la semaine prochaine. Friedrich Merz veut aller vite face à cette nouvelle donne géopolitique et c'est pour lui une rupture majeure. Merz a toujours prôné la modération des dépenses. D'une manière générale, les conservateurs, vous le savez, sont très attachés à la discipline budgétaire. Ce sont eux qui avaient instauré ce frein à l'endettement sous Angela Merkel.
Et donc, c'est une révolution pour toute l'Allemagne.
Bien sûr, il y a la remise en question de la rigueur budgétaire, un virage à 180 degrés en Allemagne, mais il faut aussi avoir en tête l'importance du parapluie américain pour protéger le pays. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands s'appuient sur les États-Unis pour leur sécurité. La RFA a rejoint l'OTAN en 1955, plus de 30 000 soldats américains sont aujourd'hui déployés en Allemagne. Le renversement d'alliance opéré par Donald Trump est un bouleversement pour le pays qui se sent aujourd'hui particulièrement vulnérable, fragile, abandonné par son allié historique. L'accord signé hier ouvre un nouveau chapitre, celui d'une Allemagne prête à prendre en main sa sécurité, à rebâtir son armée et peut-être, qui sait, à jouer les premiers rôles, même si le chemin est encore long, dans une Europe de la défense.
Franck Madvon, merci beaucoup. Vous reviendrez demain. Le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier.
Moteur. France Inter.
And Oscar goes to...
Un jour dans le monde.
Hi Mickey, are you experiencing any vertigo?
I guess I am feeling a little dizzy.
Oh, wow! Did you see that?
C'est son premier film depuis le succès de Parasites. Corinne, sa Palme d'Or et ses 4 Oscars. Le Sud-Coréen Bong Joon-ho est de retour et il a décidé d'accorder plusieurs vies à Robert Pattinson dans le film Mickey 17. Une nouvelle fable sur l'état du monde, sur nos travers aussi, qu'il faut absolument aller voir en salle ce mercredi, surtout si vous avez aimé les précédents et notamment Snowpiercer et les autres aussi d'ailleurs.
Voilà, de la neige, des monstres, de la science-fiction. On retrouve bien ici toute l'ADN du cinéma de Bong Joon-ho au service d'une comédie complètement louche. loufoque, pas très optimiste sur l'état du monde, qui met en scène Robert Pattinson dans un futur proche où les humains sont devenus des produits jetables qu'on peut faire mourir et réimprimer à l'envi pour accomplir des tâches ingrates sur une planète qui est devenue hostile. Il joue dans le film le rôle de Mickey Barnes, jeune pâtissier qui a fait faillite avec son entreprise de macarons et qui a dû accepter pour payer ses dettes de se laisser embrigader dans un programme peu ragoûtant au service d'un affreux dictateur, mourir pour renaître à l'infini dans une nouvelle version de lui-même, jusqu'à ce qu'un jour, la machine se grippe, Mickey 17, confronté à son double Mickey 18, un peu comme dans Highlander, où à la fin, il ne peut en rester qu'un. Le film est adapté d'un roman d'Edward Ashton qui résonne très fort avec l'actualité récente et les grands sujets qui traversent habituellement le cinéma de Bong Joon-ho.
J'ai écrit le scénario en 2021 et on a tourné en Angleterre en 2022. Et donc plusieurs années se sont écoulées avant la sortie du film. Mais bizarrement, la situation politique est vraiment fait écho aujourd'hui. Et certains journalistes me demandent si je n'ai pas une boule de cristal chez moi. Mais c'est vrai que moi-même, je suis un peu assez étonnée de la tournure des événements dans le monde politique. Enfin, ce sont vraiment des dangers réels. Et plutôt que de le traiter comme un journal télévisé, c'est vrai que je garde cet aspect de SF dans mes films pour pouvoir parler du réel, mais un peu en disant que c'est quelque chose qui nous arrivera dans le futur, mais finalement c'est un futur très proche, en fait ça nous guette. Donc tous ces problèmes que l'on a, au sein de ces problèmes-là, il existe nous, les individus. Et là, dans ce film-là en particulier, c'est Mickey, je m'attarde en fait sur ce personnage.
Un projet ambitieux qui a nécessité des tonnes de décors, des mois de tournage, alimenté toutes les rumeurs. Warner, qui produit le film, a plusieurs fois repoussé sa sortie. On craignait de voir la patte de Bong Joon-ho diluée dans une grosse production hollywoodienne. Ce n'est pas tellement le cas. C'est même une grande comédie humaine. La violence des relations sociales, les inégalités, la brutalité des humains les uns envers les autres, tout est là.
Alors certains, Corinne, y voient un film anti-Trump, est-ce que c'est le cas ?
Difficile en tout cas de ne pas voir la ressemblance entre le personnage de Mark Ruffalo à l'écran et le nouvel occupant de la Maison Blanche, même si en interview, Bong Joon-ho s'est toujours défendu et pour chacun de ses films de vouloir faire de la propagande, il revendique avant tout un cinéma divertissant. En attendant, dans le registre du dictateur colonialiste, le comédien américain est très convaincant, porté par une actualité brûlante. Le nom de Trump n'est jamais prononcé, mais jamais très loin non plus. Mark Ruffalo sur son personnage.
Il essaie de contrôler le monde entier et aussi les créatures indigènes du monde qu'il est en train de conquérir. C'est du colonialisme classique. C'est l'archétype du petit dictateur que l'on a vu tant de fois au cours du siècle dernier. Ils sont tous pareils, égoïstes, cupides, autocentrés. J'ignorais que Dieu regardait des films et en était comme nous autant inspiré. Parce que ce film, on l'a fait il y a 3 ans, on dirait vraiment une prophétie. Si on m'avait dit il y a 3 ans à quel point ce film ressemblerait à la réalité, c'est censé être de la SF qui se passe 30 ou 40 ans dans le futur. J'aurais dit que c'était impossible. C'est juste trop pour nous.
Le résultat est souvent drôle, décalé. C'est un film ultra créatif, très dense, bourré d'inventions, de machines, de créatures et de technologies.
Et ben, ça s'appelle Mickey 17, signé Bong Joon-ho. Au cinéma ce mercredi, c'est un film France Inter. Et Corinne Pellissier, merci beaucoup.